Bonjour Vincent.
Bonjour Bruno. Ça va bien ?
Ça va, merci. Alors, 7 heures classiques que nous attendons de plus en plus nombreux, avec impatience le samedi après-midi.
Oh là là, comme j'en suis vraiment fort aise. Moi aussi, je l'attends avec impatience, parce qu'en plus, aujourd'hui, on va écouter des morceaux pour clarinette et saxophone, et suivi de quelques quatuors qui nous amèneront vers la musique d'Arnold Schoenberg. Elle vous est pas très familière, ou plutôt vous la connaissez un petit peu, cette musique, Bruno ?
Non, je connais Arnold Schwarzenegger, mais pas Arnold Schoenberg. Et je connais son frère, Claude-Michel Schoenberg.
Très bien. Pas moi. Je suis ravi de faire ses connaissances. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, tout d'abord, la première rhapsodie, ou rhapsodie pour clarinette et orchestre, de Claude Debussy, bien connu des clarinettistes, car elle est jouée dans beaucoup de concours d'orchestre, et pour cause, c'est Gabriel Fauré, alors directeur du Conservatoire de Paris, qui avait demandé à Claude Debussy de siéger dans son conseil supérieur, et parmi les tâches qu'on attendait de lui, il doit composer des œuvres de concours. Alors, cette œuvre pour clarinette voit le jour en 1910, l'accompagnement est, pour des questions pratiques, écrite pour piano, mais Debussy en écrira rapidement une pour orchestre, et c'est évidemment celle-ci qui est le plus souvent jouée de nos jours. On retrouve un peu des couleurs de Pélléas dans ces quelques pages assez contemplatives. C'est une version de Guy d'Anguin à la clarinette, l'orchestre de l'ORTF, dirigé par Jean Martinon.
Thank you.
La rhapsodie pour clarinette et orchestre de Claude Debussy par Guy Danguin, la clarinette, et l'orchestre de l'ORTF dirigé par Jean Martinon. Et ce n'est pas la seule rhapsodie pour instrument à vent composée par Claude Debussy, car il en existe une autre pour saxophone. Alors c'est intéressant parce que cette fois-ci, ce n'est pas une pièce de concours, ça a été commandé par une américaine, Eliza Hall, présidente de l'Orchestra Club de Boston, une femme très riche, qui lui a écrit et a payé Debussy à l'avance. C'est assez rare et plutôt apprécié des compositeurs en général. Et Debussy l'a fait patienter pendant pas mal de temps, plusieurs années. Il était très occupé par l'écriture de Péléas. Et puis, comme il le dit lui-même, il était un peu en panne d'inspiration, je cite. « Naturellement, les idées musicales mettent un soin tout particulier à me fuir comme d'ironiques papillons. Et je passe des heures d'énervement indescriptible. Cela se complique de ce que je voudrais faire, quelque chose de très bien pour récompenser ces gens d'avoir tant attendu. » Alors c'est ce qu'il écrit en 1903, mais cette envie de bien faire est teintée d'ironie, voire d'exaspération. Je cite à nouveau. « Le saxophone est un animal à hanches simples, dont je connais mal les habitudes. » Et tout en s'adressant à son interlocuteur, il ajoute « Ça ne te paraît pas indécent, une femme amoureuse d'un saxophone dont les lèvres sucent le bec en bois de ce ridicule instrument ? Ça doit être sûrement une vieille taupe qui s'habille comme un parapluie. » Fin de citation. Alors voilà, on reconnaît bien là les moqueries et cet humour légendaire de Debussy. On écoute sans plus tarder cette rhapsodie pour saxophone orchestre, rhapsodie mauresque, comme il le dit lui-même. C'est Jean-Marie Lonnex au saxophone, toujours l'ORTF, dirigé par Jean Martinon. Rhapsody pour saxophone orchestre de Claude Debussy, et c'était Jean-Marie Lonex au saxophone, toujours l'ORTF, l'orchestre de la radio-télévision française, qui deviendra l'Orchestre National de France, dirigé par Jean Martineau. Rhapsody mauresque, selon le compositeur, sans doute les influences arabo-hispaniques se font ressentir par certains motifs rythmiques entendus aux percussions, composés probablement entre 1902 et 1912, mais créés seulement à Paris en 1919, après la mort du compositeur. Tout comme le quatuor à cordes de Gabriel Fauré, d'ailleurs, qui est son œuvre ultime, opus 121. Mais pas pour les mêmes raisons, déjà parce qu'il l'a composé de septembre 1924 à septembre 1925, qu'il est décédé 2 mois plus tard, et aussi parce que si Fauré attendit le crépuscule de sa vie pour écrire un quatuor, il en confie à sa femme la chose suivante. C'est un genre que Beethoven a particulièrement illustré, ce qui fait que tous ceux qui ne sont pas Beethoven en ont la frousse. Alors tu peux penser si j'ai peur à mon tour. Je n'en ai parlé à personne. Voilà donc encore un témoignage, si toutefois quelqu'un avait des doutes, de l'influence qu'a eu Beethoven sur des générations de compositeurs et sur le monde en général. On écoute tout de suite le premier mouvement de ce quatuor de Gabriel Fauré, Allegro Moderato, modéré donc, qui s'ouvre avec des brefs solos d'alto un peu angoissés, commentés de façon plus rassurante par les autres membres du quatuor avant que se déroule un monde certes complexe, mais d'une richesse de couleurs et d'une pudeur incroyable, et c'est une interprétation du quatuor par Renin.
Thank you.
13h32 sur Radio Rythme Bleu, c'est l'heure classique et c'était le premier mouvement du Quatuor à cordes de Gabriel Fauré. Deux violons, un alto et un violoncelle, bien sûr. C'est la dernière œuvre composée par Fauré qu'il travaillait caché, sans en parler à personne, pour ne pas subir trop de pression de la part de ses pairs, en plus de celle qu'il avait lui-même à composer pour une formation dans laquelle Beethoven excellait. Et c'est peut-être le moment d'écouter le 16e et dernier Quatuor de Ludwig van Beethoven, opus 135. Lui aussi, c'est sa dernière œuvre et peut-être Fauré s'est inspiré du premier mouvement parce que l'alto pose un motif très court, seul, comme une interrogation qui revient deux fois, un peu comme le début de ce que nous venons d'entendre. Nous écoutons les deux premiers mouvements, aussi sublimes qu'énigmatiques et déroutants, Allegretto et Vivace, encore interprétés par un quatuor français, c'est le quatuor Strada. Van Beethoven, le dernier quatuor, 16e quatuor opus 135, c'était les deux premiers mouvements, Allegretto et Vivace par le quatuor Strada. C'est assez déstabilisant ce qui se passe rythmiquement et harmoniquement dans ce deuxième mouvement qui fait un peu office de scherzo, on croit entendre du Bartok ou du Schoenberg, c'est d'une modernité incroyable. Beethoven a vraiment tracé la voie à suivre et tout le monde s'y est engouffré. C'était une musique que personne ne comprenait à son époque et il répétait souvent à ceux qui voulaient bien l'entendre qu'il ne composait pas pour ses contemporains mais pour les générations à venir, c'est-à-dire nous, et on l'en remercie. Beethoven, c'est avec Mozart, Haydn et Schubert ce qu'on a appelé plus tard la première école de Vienne, car il y a eu la seconde au XXe siècle avec Schoenberg que je viens de mentionner, Alban Berg et Anton Webern. Alors Arnold Schoenberg était au début de sa vie et de sa carrière de compositeur très admiratif des compositeurs germaniques, Mozart, Bach, Beethoven, et puis il s'est petit à petit émancipé du système tonal traditionnel que nous connaissons en construisant ses œuvres non pas autour d'une ou plusieurs tonalités, mais avec un système qui fait que la série des 12 sons de la gamme chromatique par demi-ton doivent tous être entendus avant de commencer une autre série de 12 sons. C'est ce qui a donné naissance à la musique sérielle. Pour donner un exemple concret, nous allons écouter le premier mouvement, Messiche, qui veut dire modéré en allemand, de son deuxième quatuor à cordes, qui représente un tournant dans ses compositions. N'essayez pas de repérer la série de 12 sons, essayez plutôt d'écouter la série d'intervalles entre les notes, car c'est plus judicieux pour la compréhension du système et surtout plus agréable. Le premier mouvement, Messisch, qui signifie modéré en allemand, du deuxième quatuor d'Arnold Schönberg, chef de file de la deuxième école de Vienne. Une de ses premières compositions de musique sérielle, c'était le New Vienna Quartet. Et pour terminer cette émission, un petit chant comme un petit rappel, un encore, comme disent les anglo-saxons, de Moussorgski, compositeur russe. Ça s'intitule Sleza, qui signifie une larme. C'est une de ses dernières compositions. Il est mort en 1881 et c'est une interprétation de l'éternelle pianiste russe Maria Yudina. Sleza, une larme de Modeste Moussorgski, composée vers 1881, interprétée par Maria Yudina. C'est la fin de votre heure classique, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Les épisodes de l'heure classique sont disponibles à la réécoute sur le site de Radio Rythme Bleu. Merci à Bruno aujourd'hui pour la réalisation de l'émission. Très bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Thank you.